9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Jérémy Ferrari.
Mais bonjour.
Vous êtes humoriste, connu pour votre humour rentre-dedans, pas politiquement correct et j'en passe. Deux spectacles déjà cultes, on peut le dire. Alléluia Bordel sur la religion, Fallait oser. Et Vend deux pièces à Beyrouth, là aussi Fallait oser. Premier spectacle d'humour sur la guerre. Votre service de presse à l'époque annonçait 200 000 personnes en salle, 67 menaces de mort. Et là vous revenez pour votre gala. Les Joe de l'Impossible 7, c'est la 7e édition. Ça a été filmé, ça sera diffusé samedi, donc demain, à 21h sur C8. Racontez le principe des Joe de l'Impossible.
Alors en fait, les Joe de l'Impossible, c'est tout simple. Moi, je faisais beaucoup de galas télé d'humour, hein, comme on en connaît beaucoup. Puis je me suis aperçu qu'en fait, les galas d'humour, souvent, c'était les humoristes qui venaient jouer leur meilleur sketch. Alors ça donne une soirée assez chouette, mais je me disais, mais comment on pourrait avoir de l'inédit? Et c'est très compliqué parce que c'est tellement de travail de faire un sketch seul sur scène que tu vas faire finalement pour une soirée. C'était compliqué de convaincre les humoristes. Donc je me suis dit, et si on les réunissait en duo? Parce que souvent on se croise dans les galas, mais on fait du one-man show, donc on n'a pas souvent l'occasion de faire des duos. Donc j'ai créé cette soirée où je demande à des humoristes de venir faire un sketch totalement inédit. Donc ce sketch n'a jamais été joué nulle part. Ils le font pour la première fois sur scène et ça fait 7 ans que ça dure.
On va entendre la bande-annonce. En l'occurrence, c'est pas un duo, c'est un trio.
Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour.
Bonjour ou bonsoir, on ne sait pas puisqu'on ne peut plus sortir.
Alors on a une excellente nouvelle à vous annoncer.
Ah, une excellente nouvelle? Un vaccin?
Les Duos Impossibles de Ferrari, nouvelle édition, donc l'édition numéro 7 sera en prime sur C8 le 12 décembre et vous avez également deux sketchs totalement inédits dès maintenant sur la chaîne YouTube des Duos Impossibles de Ferrari. Cette édition est présentée cette année par moi-même, Jérémy Ferrari, Baptiste Caplin et Arnaud de Samer.
Ah, Arnaud de Samer, c'est qui ça? Ah bah oui, c'était un humoriste, du temps où on pouvait jouer nos spectacles.
Mais arrête, ils vont réouvrir là, ça y est,
on peut rejouer, ils réouvrent. Ils réouvrent? Et mon cul, ils réouvrent avec une distanciation sociale. On perd de l'argent avec les distanciations. Je vous dis pas, on gagne moins d'argent. Je vous dis, on perd de l'argent. Personne, laisse-moi parler. Personne ne joue pour perdre. Personne ne joue pour perdre de l'argent. C'est impossible. Allez dire à Neymar et Mbappé, vous jouez contre Mönchengladbach, mais vous allez perdre. Ils y vont pas, les gamins. Hein. Ce sont des champions, ils ont la niaque, ils ont la gagne. On ne va pas à un endroit pour perdre.
On a coupé là, trio irrésistible, c'est Arnaud de Samer hein, qu'on ne peut plus arrêter, ça dure 2h40 et on vous retrouve. Vous avez retrouvé ce fameux trio, vous-même Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer, je l'ai dit, Baptiste Le Caplin, et là, vous revisitez la légende d'Aladin.
Oui, alors en fait, l'histoire, c'est que moi, Guillaume, et moi, Arnaud et Baptiste Le Caplin, il y a quelques années, on a fait une tournée des Zéniths en trio, et ça faisait longtemps que les gens voulaient nous revoir sur scène. Mmh. On a fait un sketch à la précédente édition des Duos Impossibles sur les Duos 6 qui avait extrêmement bien marché, et là, on fait carrément la présentation. Donc on ouvre le spectacle par une parodie de Aladin.
Je ris parce que je l'ai vu, donc voilà. Non, mais là, c'est complètement dingue. Vous avez un peu modifié le texte.
On a complètement... En fait, le principe de ce sketch, c'est que... Et on fait ça pratiquement... Ça fait deux éditions qu'on le fait. C'est qu'à chaque fois, moi, en gros, j'ai vendu une adaptation d'un spectacle. On ne sait jamais à qui, mais c'est jamais des gens très bien. Et donc, Baptiste et Arnaud découvrent l'adaptation du texte que j'ai fait.
Ils découvrent le texte, ils sont obligés de s'embrasser sur la bouche. Énorme numéro de... Arnaud de sa mère qui joue Jasmine. Vous avez un peu modifié le texte. Vous faites débouler le conflit israélo-palestinien, la propagande nord-coréenne. C'est vous qui écrivez tout ou vous écrivez tout ensemble?
On écrit tout ensemble parce qu'avec Arnaud et Baptiste, ça fait très longtemps qu'on a l'habitude de travailler ensemble et ça va très très vite quand on est à trois. Et comme on a chacun nos univers, c'est-à-dire que moi, en gros, je joue un malade, misogyne, homophobe, raciste, complètement cinglé, que Arnaud est complètement lunaire, donc ne voit le mal nulle part. Et il n'y a que Baptiste qui est normal et qui est au milieu. À chaque fois, c'est irrésistible. Quoi.
Les autres guests, il y a Rick Antoine, Olivier de Benoît, Alex Vizorek, Guillaume Auguiz, Oldela, Philippe Croison, Guillaume Batz. Comment décrire Guillaume Batz?
Écoutez, même la science ne sait pas se prononcer à ce sujet. Non mais Guillaume, pour ceux peut-être qui le connaissent pas, c'est un humoriste qui a atteint la maladie des os verts. Je pense que les gens l'ont au moins vu maintenant une fois à la télé, parce que ça fait quand même une dizaine d'années qu'on le voit très souvent. Et en fait, c'est un vrai coup de cœur artistique parce que on a Guillaume Batz qui est un spécialiste aussi de l'humour noir et moi qui suis aussi un spécialiste de l'humour noir. Et donc on a l'habitude de se mettre ensemble où je suis extrêmement méchant avec lui. Et en fait, c'est devenu une habitude dans les Duos Impossibles. Tous les ans, il vient et tous les ans, je lui ai donné un rôle très humiliant. Donc un jour il fait Gollum, un jour il fait un nain et tous les ans il vient en disant mais arrête de me donner des rôles qui se moquent de mon physique et tous les ans je le réinvite et tous les ans il revient. Et là il joue Abou, le petit singe dans Aladdin.
Ça passe ce soir sur C8, vous dites que samedi. Le thème c'est samedi sur C8 et vous dites qu'il y a un thème dans ces duos, c'est l'ambition. Il y a Alex Vizorek à qui vous réexpliquez ça. Vous dites le thème, c'est l'ambition. Et Vizorek qui fait un texte sur l'art dit parler des primitifs flamands sur C8, si c'est pas de l'ambition, ça. Est-ce que C8 vous a laissé une liberté totale ou est-ce qu'il y a eu des coupes?
Alors, C8 me laisse une liberté totale, ce depuis le début des duos impossibles. Je vais même vous dire un truc, c'est que ça a été une discussion au départ avec c'est avec Thierry Schellmann et Manu Cohen-Scali avec qui j'ai discuté, et dès le départ qui sont devenus maintenant des amis, et dès le départ ça a été une condition sine qua non pour être sur C8, c'est que il n'y a aucune coupe. S'il y a une coupe, c'est parce que le spectacle est trop long ou quoi, mais il n'y a aucune censure. J'ai une totale liberté d'expression.
C'est à voir demain sur C8 et à voir dans quelques instants et entendre, c'est le portrait inattendu de Jérémy Ferrari par Hélène Manarino. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jérémy Ferrari, les duos impossibles, c'est demain sur C8. Ce fut enregistré en Belgique et livré sans aucune coupe, avec aucune censure. Aucune censure non plus. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Jérémy Ferrari. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Pimpin, votre surnom, vous êtes là pour présenter les duos impossibles. Eh bien ce matin, je vous propose de rappeler tous les duos possibles de votre vie. Le premier, votre duo de doudou, Pimpin et Marsu, un lapin et un marsupilami, dont vous ne vous sépariez jamais entre vos collections de fossiles et de pierres. Puis, il y a eu les couteaux dans vos oreilles, les contes de Grimm et Andersen. Une décoration dans votre chambre qui fonctionnait aussi par deux, les trophées que vous aviez remportés au judo et les photos de vos amis. Pendant votre enfance, vous carburiez avec un très beau duo culinaire, les pâtes et les glaces. D'ailleurs, vous n'avez pas abandonné la glace du soir aujourd'hui, la cookies dougde avec du caramel, c'est ça, qui peut être détrônée par son binôme, le Kinder Bueno.
Oh, disons, c'est un gourmet, Jérémy Ferrari.
Mais oui, ouais,
très gourmand.
Pourtant, vous êtes enfin cuisinier, puisque vous avez cuisiné un de vos plats préférés dans un petit resto et il a été annoncé en plat du jour.
C'est vrai.
Alors, Jérémy Ferrari, vous aimiez inventer des histoires sans fin, petit, vous promenez avec vos chiens, enchaîner les parties de Cluedo, ou encore vous extasiez devant le club Dorothée en chantant les génériques de vos dessins animés préférés. Puis il y avait aussi quelques imitations que vous maîtrisiez à la perfection, les personnages du Bébête Show.
Ah, je me souvenais pas de ça, dis donc.
Ah oui?
Je ne me souvenais pas de ces imitations du Bébête Show.
Mais les gens s'en souviennent pour vous. Vous seriez les refaire ou pas?
Je suis là pour vous rappeler votre vie.
Et votre enfance.
Et votre enfance. Prêt pour le spectacle au collège, vous avez assuré deux rôles dans le spectacle de votre classe. Là aussi, ça fonctionne par deux. Sauf qu'un élève a été absent à la dernière minute. Vous avez appris son texte à l'entracte. Donc un troisième rôle s'est offert à vous.
Waouh.
Enfant romantique, il vous a fallu très rapidement trouver votre moitié. À l'âge de 6 ans, Carole a été l'heureuse élue.
Elle s'appelait vraiment Carole,
ouais. Hein, ma première amoureuse.
Ouais. C'est non, il n'y a pas mal. Non, c'est pas ça. Je souris parce qu'il y a une Carole qui est là, qui attend et qui va.
C'est peut-être elle, hein ?
Non, c'est pas vrai.
Et elle est là, voilà. Un an plus tard, vous aviez des envies d'ailleurs et vous avez eu le projet de fuguer, oui, à 7 ans. Mais vous avez loupé le réveil pour prendre le train. Oh là, voilà. La fugue est loupée.
Pas bon fugueur.
Petite bêtise, et on peut en ajouter là aussi une deuxième. Vous avez fait croire à la femme de ménage que vous aviez sauté par la fenêtre.
Que j'avais sauté, pas que j'allais. Que j'avais sauté par la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai poussé un cri et je me suis caché sous une pile de nounours. Elle a manqué de faire un arrêt cardiaque. Mais elle n'était pas très gentille.
Ouais. Bah dis donc, ça aussi, c'est pas très
personnelle.
Sympa. Ouais. Jérémy Ferrari, votre duo préféré, votre grand-mère maternelle et votre tante. Une complicité inexplicable. La famille, valeur essentielle. Vous avez d'ailleurs acheté une maison aux deux personnes avec qui vous formez un trio, vos parents. Ado leader, vous aimiez organiser les soirées barbecue chez vous, faire du roller, du scooter. Et oui, rouler jeunesse. Vous saviez que le plus long... j'avais envie de le dire ce matin.
Ouais,
c'est vendredi.
Ça fait une bonne transition avec ma grand-mère, quoi.
Ouais. Vous saviez
roulez, jeunesse,
que le plus long duo de votre vie serait avec votre métier, la scène. D'ailleurs, c'est Pierre Palmade qui vous a donné envie de faire cette carrière. Jérémy Ferrari, en 2004, vous faisiez quelques petits boulots en plus de votre métier d'humoriste. Vous étiez devenu représentant en parfums et cosmétiques. Vous démarchiez vos amis pour leur faire acheter quelques produits.
Ça marchait.
Rouge à lèvres.
Ah bah non, comme parfum. N'importe quel, comme tous les commerces pyramidaux, ça ne marche pas.
Vous avez vite arrêté quand même. Ouais. Votre vie aujourd'hui est très planifiée, réglée. 2, 3, 4 projets en même temps, ça ne vous fait pas peur, même si vous aimez faire des pauses devant Peaky Blinders. Dès le matin, vous aimez donner à manger aux carpes, koi que vous avez, qu'un héron a voulu manger, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps.
J'ai des nouveaux problèmes.
Avant, j'avais des carpes.
Avant, je savais pas comment payer le métro. Et maintenant, je dois me débarrasser d'un héron qui veut manger mes carpes.
Et le soir, c'est yoga. Et oui, vous faites corps aussi avec le sport. Vous avez essayé l'escalade, mais cela vous a vite lassé puisque vous avez été dans un cours de niveau confirmé alors que c'était votre première fois. Pas de dualité dans la musique. Vous aimez tout, mais par période. En ce moment, on est sur deux styles différents, dont ça. On danse le Mia. Ayam.
Exact. J'adore.
Et au piano, vous jouez ça.
C'est vrai.
Michel Polnareff, Lettre à France, alors assez cash et direct, comme ce jour où dans un bar, un homme est venu vous voir. Il portait un pull avec beaucoup, beaucoup de couleurs. Et vous lui avez dit, pour rire, je précise, tu as choisi de mettre un pull avec des couleurs que la nature a choisi de ne jamais associer. Tu ne trouveras jamais ce genre de pull dans une forêt, par exemple. Alors il l'a enlevé, mais son sous-pull était pire. Eh bien oui, parfois les duos sont impossibles. Eh oui. Alors, Jérémy Ferrari, vous continuez de construire les différents duos de votre vie. Rire pour contrer le pire, bousculer l'opinion avec humour et autodérision. Deux ingrédients, entre autres, qui vous donnent un binôme infini et fidèle, votre public.
Merci beaucoup, Hélène Manarino.
Merci beaucoup.
Vous êtes reconnue ?
Oui, hein ? Très fortement. Je ne sais pas à qui vous avez parlé. Il y a certaines infos, je pense que ça peut être que ma mère ou mon père.
Ouais.
Donc, à mon avis, c'est plus ma maman.
Et aussi, je vais vous le dire, pour une fois, je vais balancer toute l'équipe de Sacré Soirée parce qu'on a retrouvé Carole. Mais non, ça c'est la collection 10 personnels de Nicolas Souvent, notre réal, que je remercie, que je salue. Merci beaucoup Hélène Manarino. Bon week-end. Dans un instant,
plaisir, bon week-end.
Notre premier indispensable, on va parler musique avec Angèle Châtelier et elle va nous dire ce qu'elle pense, elle va nous faire entendre l'album très attendu de Jane Birkin. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jérémy Ferrari, que vous pourrez voir demain soir sur C8, s'appelle Les Duos Impossibles. Vous avez plein de projets, vous ne cessez de travailler. Vous disiez qu'autrefois, vous travailliez 12 heures par jour, vous êtes passé à 16 heures.
Je crois qu'il y a les journées les plus grandes, en tout cas, elles sont à 16 heures. Après, ça a toujours été mon mode de fonctionnement, mais comme j'explique dans le spectacle, c'est pas un secret. Maintenant, j'ai eu des problèmes d'alcool, donc j'ai fait une cure de désintoxication il y a 4 ans et demi. Et c'est vrai que quand je suis sorti de cure, j'ai repris énormément ma vie en main. Déjà que je travaillais beaucoup, mais évidemment, là j'ai encore plus compensé. Quoi.
Et alors, j'ai découvert que vous allez même écrire le spectacle de Capucine, la petite de la jeune ventriloque qui a gagné la France Un Incroyable Talent avec Eric Antoine. On vous attendait pas sur ce terrain-là.
Ben en fait parce que depuis quelques années maintenant je suis producteur aussi et j'ai commencé à produire d'abord moi, ensuite j'ai produit Laura Lone, ensuite des festivals, ensuite d'autres artistes. Maintenant là on a repris la production aussi d'Arnaud de Samer par exemple qui va.
Oui mais tout ça spectacle. Sont des spectacles irrévérencieux. Mais une jeune humoriste qui fait un numéro de ventriloque.
Ben, non parce que par exemple de Samer c'est pas forcément irrévérencieux. J'ai aussi coécrit le spectacle.
Pardonnez-moi. Vous allez regarder Arnaud de Samer samedi soir
c'est irrévérencieux.
Si ça c'est pas irrévérencieux, je vais m'acheter un dico. Hein.
Mais par exemple je coécris aussi le spectacle d'Éric Antoine. Nouveau spectacle qui va arriver. Donc, en fait, les gens savent pas forcément, mais je suis habitué à écrire pour des, on va dire, des univers un peu différents.
Ah bah là, je vous avais écrit pour un petit animal vert nommé Elliot.
Exactement. En fait, le Capucine, elle a gagné Incroyable Talent. Pendant l'émission, Éric Antoine me dit, elle est incroyable. J'ai commencé à regarder parce que c'est vrai que je regarde pas forcément l'émission. Et puis, c'est vrai qu'elle était assez exceptionnelle. Et à la sortie de l'émission, Éric voulait vraiment la produire. Et donc, il a décidé de s'associer avec nous. Et donc, on a coécrit le spectacle. Et on a fini là, il y a une semaine, je crois, d'écrire le spectacle de Capucine. Et d'ailleurs, je la vois encore cet après-midi, puisqu'on continue de peaufiner. Et ça démarre le 15 janvier.
Ça n'arrête jamais.
Ça démarre le 15 janvier. Si.
Ah, on parlera de ça.
Jouer le 15 janvier.
On va parler de ça. On va parler également de l'ouverture, ce que Jérémy Ferrari a beaucoup de choses à dire sur la santé en France. Angèle Châtelier, bonjour.
Bonjour Philippe.
Votre santé va très bien. Ce qui vous intéresse, c'est la musique et la posologie. Le médicament du jour, c'est un peu de Benjamin Biolay et un peu de Jane Birkin, c'est ça ?
C'est ça. Benjamin Biolay, tout d'abord, qui revient avec une réédition de son album Grand Prix. Plébiscité par la critique, 20 000 exemplaires vendus rien qu'en une semaine à sa sortie fin juin. Et dans cette nouvelle version, le chanteur et parolier nous offre 5 nouveaux titres, dont 2 duos, l'un avec Juliette Armanet d'abord. Benjamin Biolay s'entoure aussi d'Adé, la chanteuse du groupe de pop dansante Thérapie Taxi.
Je sentais bien que la terre penche dès le début. Nous portions des moutelles au bon temps de la Samaritaine.
Dans cette réédition de son album Grand Prix, Benjamin Biolay choisit aussi l'audace, réinterpréter avec sa voix grave et posée un classique de la chanson française, Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine.
Ah oui, dis donc, ça doit être l'octave en dessous. Alors, il faut qu'on prenne le temps de parler d'un autre album très attendu, je l'ai dit en préambule, celui de Jane Birkin.
Oh pardon, tu dormais. Quel titre enjôleur.
Ah, c'est le titre.
Non, c'est pas vous, Philippe. Voilà, cet album... Nouvel album de la mythique Jane Birkin, produit par Étienne Dao, 13 titres orageux, nébuleux, qui évoquent aussi bien l'amour, le sexe, la mort, le deuil, mais avec une mélancolie profonde et la voix de Jane Birkin, divine, qui n'apprécie guère la mélancolie au quotidien.
J'évite au maximum, c'est-à-dire que si j'ai un moment de libre, je file voir des copains, je sors au cinéma, je sors au théâtre. Voilà, je fais de la sorte que je prends mes somnifères, je me mets KO.
Ces amants dans le parc, je les observais. Alors qu'ils s'embrassaient, chuchotent.
Enfin, moi, je trouve ça très difficile d'être toute seule. Voilà, la mélancolie s'installe seule.
Au printemps, tu dormais.
Je te sens énervée.
Dans cet album, Jane Birkin évoque aussi Kate, sa fille décédée en 2013, tombée du quatrième étage de son appartement, avec des mots crus, violents, nécessaires, un texte qui s'appelle « Cigarette ».
Enfant béni, vie de sidéral, à l'institut médico-légal.
Oh pardon, tu dormais. Le nouvel album de Jane Birkin est d'une beauté fulgurante et est à découvrir dès maintenant.
Merci beaucoup Angèle Châtelier. Ça vous tente Jérémy Ferrari?
Qu'est-ce
ce genre de musique Biolay, le Birkin.
Biolay, j'aime beaucoup. Birkin, je connais moins. Après, c'est vrai que avec tout ce confinement, etc., j'aurais plutôt envie d'écouter des choses un peu joyeuses.
Ouais. C'est vrai.
Et bien qu'elle dise qu'elle essaye d'éviter la mélancolie au quotidien, ça ne se ressent pas dans son album, qui a l'air très
c'est
beau,
cathartique.
Mais un petit peu tristoun.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jérémy Ferrari, les duos impossibles, c'est demain sur C8. Hélène Manarino nous l'a dit, Jérémy Ferrari, vous êtes un fin cuisinier. Vous avez vraiment cuisiné un de vos plats préférés dans un petit resto et ce fut le plat du jour.
Oui, c'est vrai, c'était des amis restaurateurs. Et puis un jour, on se moquait toujours du cuisinier en disant qu'il foutait rien. Puis il me dit, bah, t'as qu'à te mettre à ma place au cuisine. J'ai dit, bah, ok. Puis j'ai fait un truc qui n'avait rien à voir avec la carte, parce que je crois que j'ai fait un poulet au curry vert coco qui n'avait donc rien à voir avec la carte, qui était vraiment de France
sympa.
Traditionnelle.
Ouais.
Et en fait, le plat du jour a cartonné, donc du coup
belle le gars qui a dit sympa, belle récompense, c'est Laurent Mariotte, que je salue.
Bonjour,
et le hasard de l'actualité, est-ce qu'on pouvait pas deviner ça, vous allez nous présenter pour la fête
bien
parce
sûr.
Que le 31 c'est confiné, on en parlait avec Jérémy Ferrari. Pour le 25, une sélection de volailles.
Trois poules, mais pas forcément de luxe. Hein. Trois belles volailles de fête. Alors, on nous annonce qu'on ne peut pas se retrouver à plus de 6 adultes. Alors, on ne va pas prendre la grosse dinde qui ne rentre pas dans le four. Mais je vous propose trois volailles bon marché en plus. À part la poularde, on va un peu casser la tirelire. Mais du magret de canard, de la pintade et une belle poularde, effectivement, bien engraissée. Ouais.
Alors, on commence par la viande préférée des Français. Vous dites, c'est le magret.
C'est le magret de canard, absolument.
C'est pas vrai.
C'est le plat préféré des Français, le magret de canard. Le magret en tant que tel a été inventé en 1950. Par André Daguin, chef cuisinier à Auch.
Ah non, ça fait deux infos.
Ouais,
ça n'existait pas d'éternité.
C'était le premier et on n'osait pas d'ailleurs en manger au début. Et il n'a pas dit que c'était du canard parce que c'était bizarre. C'est la poitrine du canard. Le magret, c'est la poitrine d'un canard qui est engraissé pour faire du foie gras. Mais on peut en faire également de très bons avec du barbarie. Je pense à Valérie et Denis Dumort, par exemple, à la ferme du Loquessy à Grange-Danse en Dordogne. c'est précis, mais il y a des gens.
Dis donc, il faut aller en Dordogne.
Oui,
faut,
mais
faut
parce que je les ai goûtés justement, leur magret de barbarie, et c'est très bon. Voilà.
Non,
c'est une belle pièce qui a du goût.
Et j'espère qu'ils vont vous envoyer un petit bocal gratos.
Même
alors,
pas. Et qui reste accessible, c'est 10 euros le magret de 400 grammes.
Comment vous le cuisinez, Laurent?
Simplement, on va faire un petit clin d'œil au canard à l'orange. On va prendre de la courge qu'on va émincer avec des quartiers d'orange. On met ça au four, 25 minutes avec du miel, un petit peu d'huile d'olive et puis du beurre. Et le magret, on va faire une pré-cuisson parce que l'idée, c'est de pas non plus enfumer la cuisine avec les invités juste avant. Donc vous allez, comme on dit, marquer le magret en cuisson. Vous entaillez la peau du magret, vous la quadrillez, vous la passez 5 minutes dans une poêle bien chaude sans matière grasse. Ensuite, 2 minutes côté chair. Vous faites ça juste avant l'entrée du réveillon. Vous laissez de côté à température ambiante et ensuite, vous le passez au four pendant 12 minutes, votre magret, pour l'avoir à point. Moi, j'aime bien le manger rosé, mais en général, beaucoup de gens le préfèrent à point. Donc 12 minutes au four, et là, vous le servez avec cette garniture d'orange, de courge et une petite sauce au miel et au vinaigre que vous aurez faite avec les sucs de cuisson.
Deuxième volaille de fête, la pintade.
Alors la pintade, voilà, c'est un petit peu une cousine d'un gibier à plumes, on va dire, parce qu'elle a une chair brune qui est très savoureuse. L'ennemi de la pintade, c'est la sécheresse. Alors je vous propose de la contiser, comme on dit. C'est une info, ça.
Je note, j'essaie de retenir. L'ennemi de la pintade, c'est la sécheresse.
Oui, non, parce qu'elle a une peau qui peut, elle a une chair qui peut se dessécher très vite. Ouais. Donc on va la farcir avec du beurre sous la peau. On va décoller la peau côté tête. On va prendre un joli beurre qu'on va mélanger avec des herbes et avec du citron. Et on va passer cette farce de beurre et d'herbes qui ont été mixées sous la peau. Donc on décolle la peau, on caresse la poitrine avec le beurre, on va jusqu'aux cuisses, on s'arrête au croupion.
C'est dommage qu'elle soit morte, elle aurait kiffé.
Et après, on met de l'huile.
Il n'y a que Jérémy Ferrari qui peut dire
ouais,
ça.
Ouais, c'est drôle. Et on met de l'huile, du sel, et on met ça 45 minutes en la retournant régulièrement à 180 degrés au four.
Voilà. J'ai inventé une recette, la poularde en 30 secondes.
La poularde en 30 secondes, c'est simple. Vous allez la farcir avec une belle farce que vous achetez chez votre boucher ou alors que vous faites vous-même avec du boudin blanc, par exemple, et des marrons. Le truc, 170 degrés, four pas trop chaud. On commence sur une cuisse une demi-heure, l'autre cuisse une demi-heure, et ensuite on termine plus d'une heure la poitrine en bas et les fesses en l'air pour qu'elle soit bien colorée et que les blancs restent fondants. Une belle poularde, c'est une poule qui n'a pas pondu, Philippe.
Merci beaucoup, Laurent. Demain, à la table des bons vivants, le programme
Les fêtes de Noël à la mode provençale. On va parler du grand aïoli, des 13 desserts. Et nous recevrons Catherine Jacob, qui est une bonne vivante. Et je lance l'invitation à Jérémy Ferrari. Il vient quand il veut à la table des bons vivants.
Voilà. C'est très gentil. Je suis végétarien, alors vous allez vous emmerder.
C'est pas
vous
grave,
êtes végétarien et vous avez fait un poulet au curry.
C'était il y a quelques années. Ah là j'ai là changé là. Maintenant.
Mais tout mais change. Mais on peut manger une de vos carpes quand même.
Ah non, pas les carpes.
Il va devenir fou. Si je dis ça, il
des légumes.
Merci beaucoup Laurent Mariotte. Jérémy Ferrari reste avec nous. Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Jérémy Ferrari, les duos impossibles, c'est demain sur C8. Et je voulais qu'on dise un mot de votre dernier spectacle, Anesthésie Générale, consacré à la santé. Comme Alléluia Bordel était consacré à la religion, puis Vent deux pièces à Beyrouth était consacré à la guerre, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes même sur scène, vous étiez même sur scène, puisqu'il a été interrompu, prophétie assez incroyable. Vous étiez sur scène avec le code de la santé publique. Qu'avez-vous découvert ? Que racontez-vous ?
Ça fait quand même trois fois que j'ai des prophéties. Parce qu'Alléluia Bordel, je suis arrivé en plein dans le problème Dieudonné, le débat sur la burqa, il y avait, enfin, le changement de pape, etc. Ensuite, avec Vent deux pièces à Beyrouth, j'arrive quand même à un spectacle sur le terrorisme trois mois avant les attaques du Bataclan. Ouais. Et là, j'arrive avec un spectacle sur la santé. Au moment où je démarre le spectacle, on a une crise des urgences historique et derrière une pandémie. Donc du coup, ça fait malheureusement trois fois que je suis prophétique. Donc dans ce spectacle, moi, enfin c'est ça qui est assez incroyable, c'est que moi je décrivais donc le système de santé et surtout les problématiques du système de santé, parce que donc ça fait, je démontre dans le spectacle par A plus B que ça fait 25 ans qu'on laisse mourir le système de santé. Et je disais dans ce spectacle que si un jour il y avait un véritable problème, on en paierait les conséquences, ce qu'on est en train de payer finalement.
Ouais, malheureusement, l'autoprophétie s'est réalisée. Dans votre viseur, par exemple, l'homéopathie, que vous présentez, je vous cite, la forme de charlatanisme la plus aboutie au monde.
Alors, c'est pas ma formule, c'est la formule de Ezar Hertz, qui est un professeur de médecine alternative et qui est un ancien homéopathe lui-même. C'est un des plus grands professeurs de médecine alternative, qui donc est revenu de l'homéopathie en disant ça. Donc c'est pour ça que ça me fait rire, parce que c'est même pas ma phrase.
Ouais. Et j'adore ce que dit Jérémy Ferrari. Il dit l'homéopathie, c'est deux jours de formation seulement, comme...
comme un brevet de planche à voile.
Exactement. Je voudrais faire entendre un son. C'est le nouveau titre de Grand Corps Malade. Il l'a sorti hier à minuit. Ça s'appelle Pas essentiel. Écoutez le refrain.
Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant.
Spectacle vivant, pas essentiel. Vous aviez pris position contre la fermeture des salles de spectacle dans une lettre ouverte. C'était l'été dernier, le 18 août. Ne nous méprisez pas, disiez-vous. Que dites-vous ? Que vous inspire les nouvelles décisions annoncées hier par le Premier ministre ? Pas de réouverture des salles de spectacle avant le 15 décembre, mais peut-être, si tout va bien, le 7 janvier.
on n'y croit plus, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis battu effectivement cet été déjà contre la distanciation sociale. Parce que, et ça, c'est un combat que je continue de mener.
Ah bon pour...
Oui, parce que la distanciation sociale, pardon, dans les salles.
Hein. Pardon, d'accord.
Pardon, il y a la distanciation physique dans les salles. Je vais corriger mon propos. Donc, la distanciation physique dans les salles. Pourquoi ? Parce que c'est une erreur, en fait, de faire croire aux gens qu'on réouvre les théâtres avec la distanciation physique. C'est-à-dire que, économiquement parlant, ce n'est pas viable. Et le problème, c'est que il y a une partie des gens, peut-être, je ne sais pas, 10, 15, 20% du métier qui va pouvoir quand même rejouer avec 30, 40 ou 50% de public en moins parce qu'ils sont subventionnés ou parce qu'ils ont des modèles économiques qui fonctionnent sur des grosses marges, mais la plupart de ce métier ne peut pas vivre avec 30, 40 ou 50% du
mais combien même
du spectateur
les, combien même il y a des promoteurs de théâtre qui souffrent, qui morflent, est-ce que la santé ne passe pas avant tout? Vous dites que même ça, même cette condition n'est pas opérationnelle.
Non, c'est pas ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où on prend une décision, il faut nous expliquer pourquoi. En l'occurrence, il n'y a aucun cluster déclenché dans les théâtres. La ministre Roselyne Bachelot le dit elle-même, on sait qu'il n'y a aucun danger avec le théâtre, donc pourquoi ne pas réouvrir les théâtres? En fait, le problème, c'est ça avec ce gouvernement, c'est qu'il nous impose des choses sans nous expliquer pourquoi. Et c'est pour le théâtre, mais c'est pour absolument tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune justification, jamais. C'est-à-dire qu'on vous impose des règles, on vous amende même si vous ne respectez pas ces règles, mais on ne vous explique pas pourquoi. Donc on vous infantilise, on restreint des libertés et on ne vous explique pas pourquoi. On vous laisse mourir et on ne vous explique pas pourquoi.
Vous aviez fustigé à l'époque Sibeth Ndiaye qui expliquait que les Français ne savaient pas porter le masque. J'aimerais aussi avoir votre avis sur ce rapport du Sénat à l'encontre de Jérôme Salomon. C'est le directeur général de la Santé. Il est accusé depuis hier d'avoir fait pression pour faire modifier un rapport d'experts qui établissait le nombre de masques nécessaires en cas de pandémie. Réaction, ça me fait sourire.
Est-ce que c'est très étonnant? Est-ce que vraiment c'est très étonnant?
Ah oui.
Non, moi je trouve même pas ça étonnant parce que de toute façon ça n'est que ça. Je veux dire, on va encore
bah
dire
quand
que...
même le directeur de la santé qui demande à des experts de changer un rapport a posteriori. Ça m'étonne.
Mais
oui,
ça vous étonne plus qu'un ministre qui dit que le masque ne sert à rien et trois mois après qui vous met une amende pour le porter? Ça vous étonne plus que les stocks de masques sur lesquels il avait déjà menti au départ? Je veux dire, ce gouvernement n'a fait que ça, c'est-à-dire avoir des informations contradictoires, mentir, changer d'avis en permanence et semer le doute au sein de la population. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, ce gouvernement, pour moi, n'a fait que ça, c'est-à-dire générer de la haine entre les gens, culpabiliser les gens, parce que ça, c'est quand même... Ils sont quand même allés nous sortir une pub où on voit une gamine de je ne sais pas combien, 7 ou 8 ans, qui va à l'anniversaire de sa grand-mère, et derrière, la grand-mère qui est dans un lit de réanimation, donc sous-entendu à cause de la petite fille. Quel gouvernement fait des choses pareilles? Est-ce qu'ils ont pensé une seule seconde à cette petite fille qui peut-être a perdu sa grand-mère du coronavirus, qui va se dire peut-être pendant des années et des années que c'est de sa faute? Enfin, je veux dire...
Ça, je vous interromps, parce que le temps manque, ça redémarre quand votre spectacle?
Demandez à
Anesthésie Générale. Non, parce que les réservations sont déjà en route pour 2021.
Oui, parce qu'Anesthésie Générale, donc, c'était en cours de tournée, donc là on a décalé les dates, donc là on les a décalées, on les décale au fur et à mesure. Et puis le spectacle continue, en octobre ce sera au Folies Bergère, on a décalé Folies Bergère, et puis après la tournée des Zéniths au printemps prochain.
Les Duos Impossibles, Jérémy Ferrari, c'est demain sur C8 à 21h. Culture Média revient évidemment lundi. Nous serons avec Jean-Pierre Pernaut pour sa dernière semaine à la présentation des 13h de TF1 et ses nouveaux projets. Et puis l'humoriste Tristan Lopin qui publie « Ma psy préfère mon ex ». On va bien se marrer. Anne Roumanoff, juste maintenant. Merci beaucoup,
merci
Jérémy Ferrari, d'avoir été avec nous. Très bon week-end à tous et toutes.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.